Et nous voilà donc avec, comme à l'accoutumée quand on parle de culture, Vincent Tell. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Antoine, bonsoir chers auditeurs.
Avec nous également Monsieur Michel Thomasek, adjoint délégué à la culture et au patrimoine pour la municipalité de Dunkerque. Bonsoir.
Bonsoir.
Sophie Warlop, directrice des musées et conservatrice donc de ce lieu d'art et d'action contemporaine. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et enfin Jean Ficheux, président de l'association L'Art Contemporain, que nos éditeurs connaissent sans doute déjà, puisque vous remplacez donc Gilbert Delaine. Bonsoir à vous, monsieur. Alors, je vous laisse, Vincent, pour commencer donc cette émission spéciale.
Eh bien, je vais m'adresser directement à Madame Sophie Warlop et Michel Thomasek pour nous aider à mieux comprendre et à présenter le LAC et tout d'abord rappeler la signification de l'acronyme et expliquer, expliciter ce que c'est que ce fameux lieu, justement.
Donc je crois que c'est à moi de le faire.
Oui.
D'accord, merci. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un lieu municipal, hein, et donc en tant qu'adjoint, je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu. Alors on m'a chargé d'expliquer l'acronyme LAC. Je pense que ce n'est pas un choix très judicieux de m'avoir confié ça, parce que c'est un acronyme que je n'aime pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. J'aime beaucoup LAC, le mot lui-même, LAC. Mais quand on le développe, hein, ça nous donne lieu d'art et d'action contemporaine. Alors, si on y regarde de plus près, quand on connaît un petit peu le français, on est un petit peu inquiet parce que contemporaine ne peut se rapporter qu'à action, hein, dans ce lieu d'art et d'action. Et donc, art n'est plus contemporain dans ce titre. C'est quand même bizarre. Et puis, action contemporaine me semble ne rien vouloir dire. Toute action est contemporaine par définition. Donc, c'est très beau comme mot, LAC, hein, surtout avec la présence extérieure de l'eau. Hein, mais en même temps, pour moi, c'est une appellation, une étiquette qui n'a pas grand sens. Ce qui est important, c'est ce qui s'y fait, hein, beaucoup plus que le sens que peut avoir la formule.
Ceci dit, il y a aussi une caractéristique très particulière en dehors du nom de l'acronyme. C'est tout simplement et avant tout le caractère matériel, c'est sa situation géographique. Madame Warlop, est-ce que vous pourriez en parler, puisque ça, c'est ce qui fait aussi la caractéristique du LAC?
Alors oui, effectivement, parce que le LAC a été donc implanté dans un lieu fort de sens, et il se trouve qu'il est au carrefour de plusieurs endroits caractéristiques de la ville de Dunkerque. C'est-à-dire que d'un côté, on a la très très longue plage de Malo qui démarre, plage de sable fin avec des espaces immenses. De l'autre côté, on a un quartier, le quartier du Grand Large, qui a pris place, la place des Chantiers de France, qui est C'était donc anciennement une zone industrielle et très active et qui est devenue un quartier aujourd'hui, un quartier nouveau. Et puis on est pas très loin, à 5 minutes, du centre-ville de Dunkerque. Donc on est vraiment à un endroit de quartier et donc un carrefour des différentes zones de Dunkerque.
Alors nous avons présenté la signification de l'acronyme, du nom, nous avons rappelé sa situation géographique. Il faudrait peut-être revenir, si je puis dire, aux fondamentaux, c'est-à-dire l'année de création du musée et l'année de réouverture, car le LAC a connu des métamorphoses, des avatars dans son fonctionnement. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Madame Warlop?
Alors effectivement, donc le LAC à l'origine était le musée d'art contemporain. Il a été inauguré en 1982. Il avait été donc impulsé par l'association L'Art Contemporain, dont le président était Gilbert Delaine, hein, président charismatique et inspiré. Et puis il a fonctionné pendant de nombreuses années, très très bien, avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'expositions. Un nouveau projet a pris la plage de ce premier projet en 1994 jusqu'à une fermeture en 97 parce que le bâtiment effectivement avait mal vieilli, prenait l'eau et qu'il fallait absolument faire quelque chose déjà pour sauver cette collection. Une longue fermeture et puis en 2005 on a eu la chance de réouvrir sous cette nouvelle appellation et relancer le projet avec la collaboration de l'association L'Art Contemporain.
Très bien, merci Madame Warlop. À vous Antoine, je pense que vous avez quelques autres questions à poser à nos invités.
Oui, merci Vincent, exactement. Alors on va commencer avec un exercice sans doute un petit peu difficile pour beaucoup d'intervenants, c'est-à-dire à des questions courtes, des réponses courtes. Je m'adresse à vous Madame Warlop et Monsieur Ficheux, en vous demandant sans doute, question très difficile, nous citer un souvenir en particulier de ces 10 dernières années. Madame Warlop, je vous laisse commencer.
Alors, effectivement, c'est très difficile pour avoir passé quand même quelques années ici, c'est compliqué pour moi. Mais alors, si j'avais à en choisir un, je choisirais la résidence de William Eggleston. C'est la première résidence d'artiste qu'on a organisée après l'ouverture du lac. On avait visé très très haut parce que William Eggleston est considéré comme le père de la photographie couleur. Pour avoir été le premier artiste à avoir mis des photographies couleur dans des musées d'art contemporain. Et c'est une personnalité internationale, extrêmement forte. Et le fait d'avoir une résidence d'artiste à Dunkerque, c'était aussi un enjeu, puisque c'était le retour de ces personnalités sur le sol dunkerquois.
Oui, alors moi, l'événement important, c'est la réouverture du musée. Et le souvenir, en fait, c'est de voir toute la collection exposée une nouvelle fois. Et particulièrement, j'ai été assez étonné d'avoir autant d'émotions devant la salle support surface. C'est une salle qui rassemblait tous les artistes support surface de la collection. Il y en a une petite dizaine. L'accrochage était très beau et quand on était dans la salle, on s'y trouvait très bien et c'est très émouvant. Et si vous voulez voir des supports surface, il y a actuellement exposé dans le musée une œuvre de Claude Viala. Mais il y a d'autres artistes de la collection support surface dans la collection, il y en a beaucoup. Et ça donnait une très très belle salle. Et puis, la réouverture, c'était l'occasion de refaire un voyage dans la scène artistique des années 70, puisqu'en fait, la collection est au tiers à peu près composée d'œuvres des années 70. Et c'est intéressant parce que les acquisitions de Gilbert Delaine montrent qu'il avait vu juste dans cette période.
Merci. Alors, autre question à vous deux. Si vous deviez retenir un adjectif pour caractériser la spécificité du lac, lequel choisiriez-vous, Madame Warlop?
Alors là encore, c'est difficile. Moi, j'ai choisi le mot inspiré. Inspiré, parce que ça évoque l'art, ça évoque l'inspiration, une forme d'exaltation et de passion. C'est quelque chose qu'on partage. C'est quelque chose aussi qui animait Gilbert Delaine et c'était son point commun d'ailleurs avec les artistes. Inspiré, parce que c'est également quelque chose qui me fait penser au souffle, à la respiration. Et je pense que donc c'est tout simplement la vie qui s'incarne ici dans ce lieu parce que c'est un lieu de partage avant tout. Voilà, donc j'ai choisi ce mot.
Monsieur Ficheux.
Moi, j'ai choisi l'adjectif extraordinaire parce que, évidemment, il faut y mettre un mot, c'est la démarche qui est extraordinaire parce que ce qui a été fait montre une ténacité assez étonnante, montre aussi une grande amitié avec les artistes, montre aussi la capacité de mobiliser les mécènes et réussir à construire un musée comme ça au milieu d'un jardin très symbolique. En fait, c'est quelque chose de très réussi. Et quand Gilbert en parlait, il disait qu'en fait, le musée était dans l'industrie dunkerquoise, c'est-à-dire au milieu des grues, au milieu des bateaux, et montrait vraiment la vie de Dunkerque. C'était un musée à Dunkerque et pour Dunkerque.
Merci à vous, Vincent. Je vous redonne l'antenne.
Merci, Antoine. Je vais m'adresser plus spécialement directement à M. Ficheux pour lui poser une question. Quelle a été l'importance de l'association dans la vie du musée? Quels étaient concrètement les liens entre les deux institutions?
Oh là, c'est extrêmement important, puisque la collection a été créée par Gilbert Delaine et son association dans les années 75. Qu'il a obtenu de la municipalité de faire un musée, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il a obtenu ça en 79 et le musée a été ouvert en 82.
Donc oui, c'est... Il faut rappeler le soutien qu'il a reçu de la part de la municipalité.
Il a su avoir la confiance de la municipalité pour réussir le musée. Et ce musée a été ouvert en 82 et c'était vraiment un très beau succès. Donc je pense que les liens entre le musée et l'association sont extrêmement ténus, puisque en fait, sans Gilbert Delaine, sans son association, il n'y aurait pas eu de musée, il n'y aurait pas eu de collection en fait.
Deuxième question, qu'envisagez-vous pour le maintien et le développement de ce lien, puisque bon, il a l'air naturel, si je puis dire automatique, parce qu'il est dès l'origine, il existe, mais même ce qui existe à l'origine peut très bien se défaire. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour le maintenir, voire le renforcer ou le dynamiser?
Effectivement, c'est un lien extrêmement fort, et Gilbert m'en parlait souvent parce qu'il avait extrêmement peur après son départ de... que tout partirait, qu'il ne se passerait plus rien et que tout s'arrêterait. On lui a promis qu'on continuerait et on essaie de continuer comme il le faisait. Alors c'est les axes d'action, c'est d'abord d'être très en contact avec l'équipe de direction du musée pour essayer de monter des expositions, pour essayer de les aider le plus possible à réussir ces expositions. Et une association a une souplesse que n'a pas toujours une direction de musée. Et je pense que Sophie ne me contredira pas. Et ça, c'est sa première partie. La deuxième partie, c'est de rester en contact avec les artistes et leurs ayants droit, parce que, et ça, on a la souplesse pour le faire, on l'a démontré à plusieurs reprises. Et puis, la troisième partie, c'est d'essayer de trouver des mécènes. Ça, je dois dire que Gilbert a pu faire cette opération dans les années 70, au moment de la prospérité de Dunkerque, un moment où il n'était pas très difficile d'obtenir des aides des entreprises. Au début aussi du mécénat, que personne ne connaissait. Maintenant, partout, tout le monde parle de mécénat, ce qui veut dire que quand on veut faire du mécénat, ben, on se trouve en concurrence avec beaucoup de monde. Donc pour nous, le grand problème, c'est de réussir à stimuler ce mécénat et à créer un groupe autour de nous d'entreprises, dunkerquoises si possible, qui nous aident à développer et à acquérir de nouvelles œuvres.
Merci. Madame Warlop, auriez-vous quelques mots à ajouter à cette dernière question ?
Moi, je pense qu'il est effectivement très, très agréable, d'une part, de se sentir soutenu. Et tous les musées n'ont pas cette chance-là d'avoir une association aussi forte à côté d'eux. Puis, ce n'est pas n'importe quelle association, c'est l'association qui a fondé cette collection, à qui donc on est redevable et à qui, vraiment, avec qui on partage du coup toute l'histoire. Et ça, c'est vraiment fondamental. Après, je pense que... il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être redéfinies en ce moment autour de ce lieu avec le pôle art contemporain, et que là aussi c'est des perspectives qu'on doit dresser ensemble.
Merci madame. Antoine ?
Oui, alors on va passer à un temps qu'on avait fait lors de la première émission, c'est-à-dire un petit jeu où on va vous demander de deviner une œuvre. Je vous laisse peut-être, Madame Warlop, décrire éventuellement ce que pourront avoir les personnes qui trouveront l'œuvre en question, et peut-être nous donner un premier indice pour une première œuvre. Et ensuite, vous serez tous invités, si vous le souhaitez, à poser des questions pour deviner cette œuvre.
Alors oui, donc on a prévu d'offrir les catalogues du lac à ceux qui vont découvrir l'œuvre, et le premier indice est cadre doré.
D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions là sur cette œuvre? Allez, quelqu'un va bien se lancer.
Et vous avez le droit de poser des questions sur sa taille, sur
l'époque, sur l'artiste, sur le mouvement.
Ce sont des œuvres que vous avez vues tout à l'heure.
C'est pas le tableau de Jeanne Leroy, là-haut ? Il a un cadre doré.
Alors oui, effectivement, il a un cadre doré, mais ce n'est pas celui-là. Vous pouvez demander des détails sur cette œuvre, on vous répondra, ça vous aidera.
Quelle dimension ?
C'est pas très grand.
Pas très grand.
Quel mouvement ?
Alors ça appartient, on va dire, au mouvement Cobra, mais c'est un peu après ce mouvement proprement dit.
Antoine, excusez-moi, je peux poser une question parce que je ne connais pas l'œuvre.
Vous ne gagnerez pas, Vincent.
Je ferai pression quand même pour obtenir un catalogue. S'agit-il d'une œuvre en deux dimensions, d'une sculpture ou voire d'une œuvre hybride, c'est-à-dire par exemple à la fois en volume et recouverte de peinture ?
Une bonne question.
Alors, c'est une excellente question, surtout par rapport à cette œuvre-là. Effectivement, c'est une œuvre qui a un petit volume. C'est un collage.
Très bien.
Ou relief, bas-relief ?
Bas-relief.
Très bien. Alors, je vais vous apporter le micro pour le dire. Les auditeurs le sauront aussi.
C'est un Doucet.
Oui, c'est une œuvre de Jacques Doucet.
Elle est située donc à gauche en entrant dans la salle qui est là-haut, à côté du grand tableau de Doucet qui a été acquis par l'association tout récemment.
Oui, voilà. Et c'est cette œuvre qu'on a choisie parce qu'on voulait la mettre en valeur.
Qui est très, très belle. Très colorée. C'est un beau collage.
C'est un collage des années 60 sur une boîte à couture. Et effectivement, elle nous a été offerte récemment par l'association L'Art Contemporain. Donc, grâce à Jean et son équipe. Oui.
Mais aussi grâce à Sophie, parce que quand nous avons acheté le tableau, Madame Doucet nous a proposé d'autres œuvres et on a choisi avec Sophie, et on a choisi ce collage parce que vraiment il était on le trouvait vraiment très beau et on pense qu'il a vraiment sa place dans la collection.
Donc peut-être une autre œuvre, je sais que vous en avez plusieurs pour ce jeu.
Alors une autre œuvre, oui, si vous voulez, et je dirais personnage littéraire.
Alors, des questions.
L'auteur, j'aimerais lancer déjà la pompe à questions. L'auteur est-il français ou est-il d'un autre pays européen ?
Alors, l'auteur de l'œuvre a vécu en France, mais il n'est pas français d'origine.
Quelle est la technique employée ?
Alors, c'est une peinture. Ah non, il n'est pas belge.
Elle est épaisse, c'est vrai. Elle est...
Oui,
très
c'est
colorée.
Une peinture très colorée. C'est une peinture figurative, oui, qui représente un visage.
Il y a du rouge.
Lancez-vous, dites un nom.
Alors, est-ce que quelqu'un est inspiré ?
Vous auriez
un
nom.
Oui, il y en a d'autres là-bas qui sont inspirés.
Il y en a d'autres ? Ah, on va essayer de changer un petit peu de côté de la salle.
Oui.
Il faudra l'hommage à Oscar Wilde.
Oui, c'est le portrait d'Oscar Wilde de Bernd Lindström, bien sûr. Bravo.
Bravo.
Bon, alors, on dit jamais 203.
Bah un petit mot sur ce tableau. C'est aussi un don, en fait. C'est un don d'Eugène Daudaigne. Il a remis 9 œuvres il y a 5 ans, et dans lesquelles il y a deux tableaux de Nystrom. Il y a aussi un tableau de l'École du Nord qui est
Marc René,
qui est à côté, d'ailleurs. Et... Il faut savoir que Eugène Daudaigne est représenté dans le jardin par les trois pleureuses qui sont de très belles œuvres, en fait, très, très, très agréables à regarder, qui regardent la mer, qui pleurent devant la mer. Et c'est vraiment, je vous conseille d'aller regarder ça tranquillement, c'est vraiment très, très beau dans le jardin.
D'accord. Alors, je vous laisse pour une troisième et dernière œuvre.
Alors, la troisième et dernière œuvre, alors l'indice est calligraphie.
C'est facile, ça.
C'est facile, mais j'en trouve facile.
C'est une œuvre en trois dimensions.
Non.
C'est une peinture à l'acrylique.
Alors, c'est une peinture avec de l'acrylique.
Il y a de l'acrylique, oui. C'est bien.
Est-ce
eh bien, il y a plusieurs supports. C'est un papier marouflé sur toile. Oui, c'est une œuvre qui est déposée.
Alors, vous l'avez sans doute trouvé.
Si vous... Non.
Non. Vous posez des questions parce que c'est très dur de meubler les blancs en radio.
Alors, l'œuvre est-elle figurative ?
Alors, elle est inspirée par la figuration, elle n'est pas totalement figurative.
Y a-t-il de... Évidemment, par rapport à l'indice, y a-t-il de l'écriture, une référence à la calligraphie ou alors une calligraphie orientale ?
Alors, plutôt une calligraphie d'Extrême-Orient, inspirée donc plus par le Japon.
Alors,
oui, elle est grande. Elle
j'entends
est grande.
La réponse ici. Alechanski.
Oui, c'est une grande œuvre d'Alechanski qui s'appelle L'or du rien, qui est une œuvre à remarque marginale qui nous a été déposée par la galerie Lelong il y a 3 ans et qui est depuis chez nous régulièrement exposée parmi nos œuvres de Cobra.
Alors encore une petite particularité de ce dépôt en fait. En fait, ce dépôt a été fait au moment de l'exposition Cobra. Il faut savoir que pour monter cette exposition, on était très en contact avec Pierre Alechanski, qui au début était très réticent à faire cette exposition. Et puis, quand il a vu la tournure des choses, il nous a aidés, il nous a beaucoup aidés. C'est-à-dire, d'abord, il a prêté des œuvres personnelles en grande quantité. Et on est presque sûr, parce que je pense qu'il a fait faire ce dépôt par sa galerie qu'il représente, la galerie Lelong, pour 5 ans. Je pense que c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on a eu ce dépôt, et qui est un très beau dépôt, parce que c'est une très très belle œuvre, en fait. On en a d'autres, Pierre Alechanski, qui sont très belles, mais celle-là est très belle. Et je pense qu'on va devoir la rendre. Peut-être pas, d'ailleurs. Je me suis toujours demandé si on devrait la rendre. Moi, j'espère bien qu'on ne sera pas obligé de la rendre. C'est possible.
C'est possible. Les dépôts peuvent durer, et c'est bien, tant mieux.
Normalement, c'est 5 ans, ça se termine dans 2 ans.
Très bien, merci. Alors, on va reprendre notre entretien et aborder une autre question. Alors, une fois n'est pas coutume, on est en avance, donc on va pouvoir sans doute s'attarder un petit peu plus sur une thématique qui, je crois le savoir, vous est chère. C'est celle du lien entre le musée et aussi, quelque part, l'association L'Art Contemporain et ses publics. Parce qu'on le sait, un musée, ce n'est pas qu'un lieu de conservation. Mais il doit aussi faire vivre sa collection et donc la donner à voir. Alors, quel dispositif vous avez mis en place ici au LAC pour que ce lieu soit le lieu d'action qu'il se veut être ? Madame Warlop, peut-être d'abord ?
Alors, d'abord, le lieu, par sa configuration et le grand forum dans lequel nous sommes maintenant, est effectivement se présente comme un véritable lieu de rendez-vous. Effectivement, ici, c'est très facile d'organiser des événements et le lieu est adoré aussi bien par d'autres artistes qui pratiquent d'autres disciplines, par des danseurs, par des musiciens, parce que il y a la rencontre avec le public qui est très facile ici et qui vient du coup éclairer nos accrochages et nos expositions. C'est aussi un lieu de rencontre parce que on est entouré d'un jardin, qui est peuplé de sculptures de la collection, et ça fait également de ce lieu un rapport à l'espace public permanent. Pour autant, on a également développé des dispositifs pour accueillir toute forme de public et de rendez-vous. Pour chaque exposition, on réalise des visites spécifiques qui sont adaptées à chacun, qui sont adaptées aux enfants, on décline des ateliers. On a également un carnet d'observation qui est très connu parce que, en fait, c'est un très, très bel objet qui permet à l'enfant de jouer seul ou en famille au sein de l'exposition. On a également on adapte également nos visites à des publics spécifiques, avec des gens plus éloignés de l'art, et ça, c'est vraiment important de développer la médiation. Toutes ces actions sont réalisées par un département art et médiation qui a pris vraiment une grande importance chez nous et qui nous permet de partager au maximum nos expositions et nos projets.
Oui, donc en fait, au niveau de l'association, nous, on travaille beaucoup avec le musée, évidemment. Mais on a personnellement une lettre, un envoi mail pour tous les événements, pour tous nos membres. On a développé une page Facebook qui s'appelle Art Contemporain Dunkerque, que vous pouvez consulter. Il y a les expositions, il y a quelques informations, quelques animations. D'ailleurs, un beau petit film qu'on a mis récemment. Et en fait, ce que l'association essaie de développer, parce qu'il y a une chose qui nous gêne toujours un petit peu, c'est que le public des adolescents et des jeunes adultes ne vient pas beaucoup au musée. Et on a essayé de développer une première opération avec les lycéens du lycée Angelier l'année dernière. Ça a été un réel succès avec la complicité des enseignants et on a pu faire une restitution et faire venir les parents, ce qui nous a fait plaisir, faire venir les parents au musée, leur montrer le musée en fait. Donc on essaye de monter des opérations. On a l'aide de Victor Van Osten qui nous aide beaucoup dans cette opération. On va certainement la développer aussi avec le Collège des Dunes. C'est-à-dire qu'on essaye en fait de faire venir les jeunes au musée, ce qui n'est pas toujours facile. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que c'est un musée à Dunkerque pour Dunkerque. On le dit toujours, mais c'est vraiment ça. C'est ce qui était voulu au départ. La médiation fait un gros travail sur les enfants. Beaucoup d'enfants viennent ici et ça, c'est vraiment très, je pense, très, très bien. Et les enfants, en fait, ramènent leurs parents. Et ça, c'est une façon très, très efficace de faire connaître le musée. Et puis, évidemment, on essaie d'en parler le plus possible dans la ville. Et il faut faire venir les gens au musée. Mais c'est toujours le travail, c'est toujours un travail de tous les instants. Parce que c'est un endroit qui fait toujours un petit peu peur, malgré le fait que pour ce musée est très ouvert, très agréable. Comme le disait Sophie, il y a un forum très agréable. On y fait aussi des événements musicaux. Il est ouvert, il est vraiment facile d'accès pour le public. Mais bon, c'est toujours un petit peu difficile de faire venir les gens au musée. Mais j'espère que grâce à cette émission, on en fera venir un tout petit peu plus.
Monsieur Thomasek, peut-être sur cette question, quelle peut être la place, la politique mise en place par la municipalité de Dunkerque pour essayer ce défi difficile d'ouvrir les lieux de culture à la population ?
La réponse est un peu dans le point suivant qu'on souhaitait aborder, c'est-à-dire la création d'un pôle art contemporain. Et pour nous, c'est dans ce contexte-là que doit se définir la politique du musée, se définir ou se redéfinir ou se recadrer la politique du musée. Si je puis aborder ce point...
Bon. Pardon, peut-être, Vincent, vous ne m'en voudrez pas, j'empiète sur votre question, mais je me permettrai de rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas Dunkerque, puisque maintenant le FRAC Nord-Pas-de-Calais est installé à quelques centaines de mètres du lac, et donc quelles seront effectivement les retombées concrètes de cette décision de création d'un pôle d'art contemporain sur la ville de Dunkerque. Et on en revient donc aussi à l'ouverture, ma question première, de l'ouverture à la culture pour un public le plus large possible.
Oui. Je voudrais tout d'abord souligner que c'est assez curieux cette proximité du lac et du FRAC. Parce que si on y pense bien, lorsque le MAC a été créé, il était dans un contexte industriel. Et donc, l'un des attraits du lieu, c'était ce contexte de grues, etc., qui l'environnait et qui le complétait. Or, cette industrie navale a périclité, a disparu, et l'un des reliquats de cette industrie, c'est justement le lieu qui a servi pour l'installation du FRAC, ce qu'on appelle la P2, qui a été dédoublée, et où est installé le FRAC. Donc c'est assez curieux que cette proximité géographique des deux lieux d'art contemporain est finalement le fruit d'une histoire de l'industrie sur notre territoire, et peut-être pas d'une histoire telle qu'on l'aurait souhaité au départ. Alors donc évidemment maintenant, ce FRAC s'est installé très près. Et automatiquement, l'idée est là, c'est de renforcer du moins ce pôle hein, pas une simple juxtaposition de deux éléments, en faire un véritable pôle d'art contemporain. Et la nouvelle municipalité travaille dans ce sens, c'est-à-dire créer, au niveau muséal, hein, créer deux pôles, l'un qui est donc patrimonial en citadelle, et l'autre qui est donc contemporain ici, près de la mer. Et d'ailleurs, c'est assez curieux que j'y pensais en arrivant, que j'en discutais avec mon épouse, le lac s'est retourné. C'est-à-dire que l'entrée qui devait être de l'autre côté du jardin est devenue systématiquement maintenant l'entrée côté mer, c'est-à-dire du côté du Frac aussi. Manifestement, il y a une nécessité là de rapprochement. Alors, qu'est-ce que ça implique, ce pôle d'art contemporain ? Eh bien, tout d'abord, un pôle a un attrait supérieur. Un et un, ça fait plus que deux. Hein ? C'est-à-dire que, prenons un visiteur, alors je vais dire étranger, mais on se comprend, qu'il soit régional, parce que le Frac est régional, ou étranger dans le sens de Belge, par exemple. Les Belges sont très intéressés par l'art contemporain. Et donc, lorsqu'ils viennent à Dunkerque, visitent quasi systématiquement Frac et Lac. Hein, il y a déjà cet attrait pour ces visiteurs. Et puis, il y a aussi manifestement la nécessité de, sous peu, de mutualiser un certain nombre de fonctions de ces deux institutions. Alors, lesquelles, bon, tout ça est à négocier, bien entendu, mais c'est absolument nécessaire de nos jours, dans la mesure où les moyens financiers, aussi bien au niveau de la région qu'au niveau de la ville ou de la communauté urbaine, diminuent, et qu'il faut être intelligent si on veut continuer à garder le même niveau d'activité et même, si possible, l'améliorer. Et puis je pense, sur ce pôle, qu'il y a... ça va obliger. Il y a une nécessité impérieuse de clarifier les choses, c'est-à-dire d'identifier plus clairement encore les deux structures. Elles sont pas identiques. C'est pas de structures de même nature qu'on met comme ça ensemble pour faire une sorte de gros ensemble. Hein. Donc, il faut absolument que ces deux structures soient clairement identifiées. Il faut pour le lac, pour nous, dans notre esprit, affirmer sa spécificité. Cette spécificité, elle est naturelle. C'est les collections des années d'après-guerre. Jusqu'à 1980, le Frac prenant le relais d'un strict point de vue chronologique. Donc, comment affirmer cette spécificité ? Ben, je la vois surtout sur trois domaines. Dans la communication, c'est-à-dire mieux communiquer sur ce qu'est ce lac aujourd'hui, hein, ses collections. C'est pas suffisamment connu en France qu'on a une des collections d'artistes français les plus intéressantes sur cette période-là. Il faut absolument qu'on communique là-dessus. Il faut aussi, au niveau des acquisitions, bien entendu, travailler dans cette optique-là, en travaillant sur les lacunes, par exemple, se poser les questions, qu'est-ce qui nous manque pour être le vrai reflet de cette période. Et puis, enfin, dans son choix d'animation, hein, c'est-à-dire que les animations qui sont ici doivent s'ouvrir, certes, à des formes très variées, mais ne jamais oublier que la spécificité, ce sont les années 50, 80, et il faut travailler dans ce sens-là.
Oui, alors je me tourne peut-être un petit peu dépourvu vers vous, Madame Warlop, pour vous demander, pour vous, vous avez évidemment toujours travaillé avec le Frac, j'imagine, c'est normal pour un musée d'art contemporain, mais le rapprochement... géographique d'une part, et puis la volonté aussi d'un rapprochement dans le travail. Qu'est-ce que cela change aujourd'hui, au quotidien ou dans un avenir proche, pour un musée comme le Lac ?
Alors, en fait, le changement, on s'en est déjà aperçu, et c'est particulièrement vrai sur le rayonnement que peut avoir le pôle art contemporain auprès des publics belges et le public étranger. Ce qu'il faut savoir, et c'est tout à fait satisfaisant, c'est que on a pu observer que une grande majorité des visiteurs étrangers, près des 80%, peut passer d'un équipement à un autre. C'est dire à quel point moins, finalement, l'attractivité de ce pôle est visible. Alors après, on travaille avec le FRAC pour justement offrir un certain nombre de propositions de médiation pour les enfants ou pour différents publics. Notamment, on est en train de développer une exposition, des ateliers sur l'architecture entre le lac et le FRAC. Il y a vraiment de quoi dire. Comment est-ce qu'on abrite une œuvre et dans quel lieu? Ici, on est dans une sculpture. C'est une sculpture habitée. Donc ça, on est en train de développer un certain nombre de propositions également sur la traversée de l'art et de faire un panorama de l'art entre les deux lieux. On imagine également une réflexion sur le parcours d'un endroit à un autre avec des interventions d'artistes, mais ça prendra un petit peu plus de temps.
D'accord, merci. Très bien. Alors on va terminer cette, pour nous en tout cas, cette partie du direct avant de laisser aux spectateurs et aux auditeurs une rediffusion de l'émission que nous avions fait, notre première émission ici au Lac le 4 janvier 2013. Nous étions à l'époque avec Gilbert Delaine que vous remplacez, donc maintenant Monsieur Ficheux. Je vous laisse le présenter en quelques mots. Moi, je ne l'ai malheureusement pas connu et je le regrette comme vous avez pu le connaître. Je vous laisse en dire sans doute quelques mots pour les personnes qui ne l'ont pas connu, justement.
Bon, Gilbert Delaine, c'est un monsieur qui, en fait, c'est un grand monsieur, en fait, qui voulait, en fait, absolument se créer ce musée. Je veux dire, c'est une ténacité absolument extraordinaire. C'est surtout aussi une grande amitié avec les artistes. Il était capable de les emmener je ne sais où, comme il voulait, en fait. Il savait retourner une situation et défendre le musée, parce que pour lui, il y avait ça d'important. Puis Gilbert Delaine, c'est un comportement très particulier, puisqu'en fait, son seul désir, c'était d'acquérir des œuvres pour les donner au musée. Et je peux donner des exemples personnels. Par exemple, quand il avait des œuvres, il les mettait évidemment chez lui en attendant qu'elles n'arrivent ici. Et tout d'un coup, un jour, il était très pressé, il fallait absolument les déposer au musée, parce que ses œuvres, c'était pour le musée. Et toute sa vie était pour le musée, sa collection, c'était pour le musée. C'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup battu pour le musée, et je dirais assez admirable, et qui se gardait toujours de la vanité, il faisait toujours attention, il se tenait un petit peu en retrait, parce qu'il ne voulait pas apparaître trop en avant. Et il avait une autre caractéristique, c'est qu'il adorait la musique. Ça, on le sait peut-être un petit peu moins, mais il a quand même réussi à commander un oratorio, ce qui est quand même pas très commun de nos jours. Il n'y a pas grand monde qui commande comme ça un morceau de musique. C'est assez fantastique. Et donc, toutes ces caractéristiques font qu'il était extrêmement attachant et qu'évidemment, nous, on le regrette beaucoup, en fait.
Non, je voulais simplement rajouter quelque chose qui m'a toujours paru très intéressant chez lui, je l'ai connu, hein. C'est qu'il n'y connaissait rien du tout au départ en art, mais strictement rien, il le reconnaissait lui-même, et c'est une rencontre par hasard qui l'a mis en contact avec l'art contemporain, et il a tout appris tout seul. Ça, c'est assez réconfortant de penser qu'on n'a pas besoin de faire des études d'histoire de l'art pour s'intéresser à l'art. Hein. Et donc, c'est un bel exemple, je crois, d'autodidacte, finalement, qui, par le contact avec les artistes, avec les œuvres, contact permanent, a tout appris. Hein. Et ça, c'est donc, théoriquement, à la portée de tout le monde.
Très bien, merci. Je vous propose maintenant que nous en avons discuté, de l'écouter lui-même. C'était il y a bientôt 3 ans.
Je ne saurais pas trop vous dire, mais quand on se lance dans une histoire comme celle-là, il faut être un peu fou et inconscient, parce qu'on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'on ne peut plus reculer. Alors, on a accepté de l'argent, on a acheté des œuvres, et si jamais ça foire, on ne peut plus rendre l'argent, puisqu'on l'a donné, et on ne peut plus rendre les œuvres non plus. L'artiste ne serait pas prêt de les récupérer. Donc, il faut vraiment mûrir quand même ce projet. La première chose qu'on fait, on essaye d'abord, il fallait pouvoir se baser sur cette fameuse loi Malraux, hein, qui est sur le mécénat. Hein. Comme j'étais le premier dans la région à m'en servir, ça marchait très bien. Et surtout qu'en 70, ici à Dunkerque, au moment où j'ai commencé, c'était le Far West. On construisait de partout. Un jour, on passait sur une route dans le port. Le lendemain ou surlendemain, la route était disparue. Et puis, c'était un canal, c'était un quai. Donc, ça travaillait de partout. Il y avait beaucoup d'argent. Les gens gagnaient beaucoup d'argent parce qu'il n'y avait pas concurrence pour réaliser les travaux. Donc, première chose, il fallait s'assurer que le fonctionnement de la loi Malraux, ça irait très bien. Bon, ça a très bien marché. Bon, mais après, il y avait encore d'autres choses à voir. Parce qu'on va voir les gens, on leur dit, monsieur, je voudrais faire un musée. Très bien. Et vous avez de l'argent ? Non. Vous avez des toiles ? Non, pas encore, mais j'espère bien que je vais en avoir bientôt. Et puis après, bon, il faut continuer. Alors, après, il faut aussi savoir ce qu'on va en faire de ces toiles, où on va les mettre. Alors, première chose, il faut choisir un terrain. Savoir s'il y a un terrain libre quelque part, où on pourra installer un musée, un jardin de sculpture. Or, moi, je travaillais de l'autre côté de l'avenue, là-bas, où étaient mes bureaux, et je lorgnais sur un terrain qui était ici, c'était un glacis. C'est un glacis qui était superbe, qui était extraordinaire, avec des grands blocos dessus. Et la situation de ce terrain, pour moi, était vraiment exceptionnelle, puisque le jardin de sculpture, c'était un point de départ. Juste après, le jardin de sculpture, pour moi, se poursuivait avec le chantier naval, qui, lui, c'était un jardin de sculpture permanent. Et quelle sculpture, c'était superbe. On faisait des navires en permanence. Il y avait toujours surtout à la fin, il y avait beaucoup de préfabrication. Il y a bien des œuvres qu'on aurait pu prendre pour exposer, tellement elles étaient belles. Alors, donc, il y avait le chantier naval. Et après, il y avait le port. Il y avait toutes ces belles grues du port qui bougeaient dans tous les sens, qui étaient colorées et tout. Et après les grues du port, on se retrouvait dans les usines jusque Gravelines sur 10 ou 12 kilomètres. Alors pour moi, mon jardin de sculpture commençait ici et il se terminait là-bas tout au bout. Donc ce terrain ici, je lorgnais dessus et il fallait que je m'assure qu'on puisse le récupérer. Alors ce terrain, au début, il était occupé par des baraquements. C'était tous les gens de Dunkerque. Dunkerque était détruit à 90%. Donc tout le monde, les riches comme les pauvres, tout le monde logeait dans des baraquements. Mais là, en 70, c'était déjà la fin de la reconstruction. Et il n'y avait plus que les pauvres, les malheureux qui étaient là. Et qui tenaient à leur baraquement. On avait du mal à les faire partir. Alors, le ministère dans lequel je travaillais, était, si vous voulez, il comprenait les travaux publics et la reconstruction. J'avais un collègue de la reconstruction, je lui dis, bon, tu surveilles, aussitôt qu'il y en a un qui part, vite, avec une grue, il faut démolir le baraquement, parce que tout de suite, il était squatté, on n'arrivait jamais à libérer le terrain. Donc, pendant 2 ans ou 3 ans, au fur et à mesure que les gens partaient, qu'on relogeait d'ailleurs très bien dans des HLM, on a gardé ce terrain. Donc, quand je suis allé voir le maire, je lui dis, voilà, moi, je voudrais faire une collection, rassembler une collection d'art contemporain à Dunkerque, parce que ici, à Dunkerque, on emploie les techniques de pointe les plus avancées. Et en matière d'art, on est encore au bateau à voile. Alors, il m'a dit, bon, il m'a écouté avec beaucoup de gentillesse, mais il m'a dit, bon, ben oui, alors, je veux constituer une collection. Et ce que je voudrais être assuré, c'est que quand j'aurai cette collection, est-ce que vous êtes d'accord pour la reprendre et construire un musée pour l'accueillir ? Alors, il m'a dit, pas de problème. Aucun problème, on avait déjà réussi une grosse opération ensemble et qui avait très bien marché. Alors il m'a donné son accord et c'est comme ça que, partant d'ici, on savait qu'on aurait un très beau terrain, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y avait des blocos pour ne pas les démolir, on les a habillés, on les a recouverts et plantés. Et puis donc, mon jardin de sculpture, il va sur 12 ou 13 kilomètres, c'était vraiment bien. Bon, mais le problème, il fallait continuer à amasser des œuvres. Et j'ai eu une chance extraordinaire parce que personne au niveau des musées de France, personne au niveau des conservateurs s'est jamais intéressé à l'art des années 50-70. Alors quand je venais les voir, ces gens, ils se sont dit, tiens, voilà un fou comme nous, on va l'aider, on s'est dit mutuellement. Et j'avais fait un deal, en fait, je leur disais, moi j'achète une œuvre et puis vous m'en donnez une. Bon, en précisant bien que c'est de même dimension, hein, parce que faut toujours être prudent dans la vie. Et ça a très bien marché. Et j'ai des gens qui m'ont donné beaucoup plus que ce que je leur proposais. Il y a des gens comme Manessier, comme Quignot, comme Pignon. Messagier, tous ces gens-là, ils m'ont fait des noms extraordinaires. César, Armand, tous m'ont donné beaucoup, beaucoup de choses. Et celui qui m'a donné le plus, c'est Carré Lapelle. J'ai acheté une œuvre à Carré Lapelle, il m'en a donné une, et après il m'a donné, je ne sais pas, 60, 70. Donc on a la plus belle collection de Carré Lapelle ici en France, grâce à cette démarche.
Si je comprends bien, vous aviez une intention première, c'était de faire une collection. Mais déjà, vous aviez l'ambition que cette collection soit exposée et préservée dans un lieu. Donc il y avait déjà dans votre esprit le projet d'établir un lieu d'exposition.
Ah oui, c'est obligatoire, parce que sinon, que j'aurais fait avec ces œuvres.
Hein. Et ce que je constate aussi, c'est que vous aviez aussi une vision, je dirais, plastique, esthétique de l'environnement, puisque pour vous, Dunkerque méritait un lieu d'art, puisque Dunkerque était déjà, visuellement, avait déjà une beauté et méritait aussi des œuvres d'art.
Ah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est quand vous voyez les grilles du port, c'était à mon avis les plus belles sculptures qu'on avait ici. Mmh. Et elles étaient vivantes. Et puis, elles donnaient du travail à tout le monde. C'était formidable. Hein. Et avec toutes ces couleurs, ça tournait. Les navires eux-mêmes. Et même les navires, les bateaux de pêche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le bouquin du paysagiste sur le jardin de sculpture. Il a photographié des bateaux de pêche avec toutes ces fils qui descendent. On dirait vraiment des œuvres d'art. Hein. Il suffit de savoir regarder, dans le fond. Hein, c'est pas regarder puis voir. Parce que regarder, c'est une chose, voir, c'est autre chose.
Hein. Avez-vous eu très rapidement un fonds d'œuvres contemporaines, et si oui, pouvez-vous citer quelques noms d'artistes? Vous en avez déjà cité, mais est-ce que l'acquisition s'est faite rapidement? Je veux dire, elle s'est faite en 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que vous aviez comme œuvre d'art sur 3 années déjà? Et pouvez-vous citer toutes premières œuvres que vous avez acquises?
Oui, je vais plutôt dire sur 6-7 ans, mais il y avait à peu près 700 œuvres. Hein. Quand j'ai demandé au maire de construire ce musée, on avait déjà 700 œuvres.
Hein. Et quelles sont les toutes premières œuvres, quels sont les artistes que vous avez acquis en tout premier lieu?
Le premier, c'est-à-dire je l'aurais écrit d'abord, parce que moi, à l'origine, je connaissais personne. Hein. Il faut s'introduire un petit peu dans ce milieu-là. Hein. Mais c'est surtout, par exemple, un personnage comme Kino qui m'a beaucoup aidé. Il téléphonait à ses collègues en disant, tiens, j'ai un copain, là, il faut l'aider, il faut lui donner une toile. Il est même allé quelquefois jusqu'à, disons, acheter une œuvre à un collègue qui ne pouvait pas se permettre de donner une toile pour me l'offrir à moi. Hein. Et ça fonctionnait, ça a très bien fonctionné. Mais je ne sais plus ce que vous me demandiez d'ailleurs.
Tout simplement le nom.
La première œuvre. Bon, j'avais écrit le premier. Un jour, on était occupé de déjeuner, le midi, puis voilà un gros camion qui s'arrête devant la fenêtre. Ma femme me dit, tiens, t'as commandé quelque chose? Bon, on a commandé, puis on ouvre la porte, on sort une grande caisse. Et voilà, on me dit, ça c'est pas pour nous, c'est ce qu'on n'a rien commandé. Et c'était. Comment il s'appelle? Vassarelli, qui nous donnait une toile d'à peu près de 2 mètres sur 2, comme ça. Et il n'a même pas répondu, il ne m'a pas dit je vous envoie quelque chose. La caisse est arrivée.
Ouais.
Hein, voilà. Ouais, et puis après, c'est venu tout à petit. Alors bon, j'ai été aidé quand même par des gens, par exemple, comme le père Henri Dupont, c'était un galeriste à Lille. Et il aimait bien aider, donner un coup de main, puisqu'il avait. C'est lui qui a créé au départ toute la base du musée de Lille, le musée des Beaux-Arts. Au musée des Beaux-Arts, il y avait une belle collection qui a été donnée par M. Dupont. Et ce fameux M. Dupont m'a beaucoup aidé aussi. Et voilà, donc ça continue. Alors vous me demandiez les premiers, mais Manessier était très généreux, Messagier, Armand, César, Christophe Auroux, Artung, Quino, Arnal, qui vient de mourir aussi, les deux là, Appel, Pignon, Mathieu. Mathieu était plus difficile, celui-là, oui, c'était un caractériel. Lindström, qui était très généreux, Schutte-Schun, qui est devenu avec une cote extraordinaire, Albert Ferraud, le sculpteur, Dodaigne, Roulan, Schneider, Miotte, et puis tous les autres, quoi, enfin.
Ouais, des noms prestigieux. Oui. J'aimerais connaître la façon dont vous avez choisi les œuvres. Y avait-il une équipe autour de vous, des amis, des personnes, ou étiez-vous seul ?
J'étais seul. Je faisais tout seul.
Et vous ne ressentiez pas, je dirais, une gêne, le poids d'une responsabilité de...
Non, parce que moi, je faisais ça avec les tripes, et bon, et j'avais l'impression de ne pas me tromper chaque fois, que ce n'est pas prétentieux ce que je disais, mais j'ai eu la chance d'avoir, disons, le bon œil, de ouais. savoir choisir. Ouais. Hein, je crois que quand on sent que ça vibre à l'intérieur, en face d'une œuvre, on risque pas de se tromper.
Vous vous rendiez compte que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, une expérience très particulière. Un homme seul choisit et constitue une collection, choisit des œuvres pour constituer une collection qui va être pour une ville, pour une grande ville comme Dunkerque, c'est rarissime. Qu'il y ait des donations de collectionneurs privés, ça existe. Mais là, un homme seul, qui n'est pas, comme vous le dites, issu du milieu artistique, s'attache à constituer pour sa ville un fonds d'art moderne, contemporain. C'était vraiment... Vous vous rendiez compte du caractère exceptionnel ?
Ben oui, mais de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Une fois qu'on est lancé là-dedans, on ne peut plus reculer. Hein. Et puis alors, je me suis fait un tas d'amis. Tous les artistes sont devenus des amis. Ils descendaient à la maison, ils déjeunaient chez nous, ils dînaient chez nous. C'était vraiment tous des amis. Hein. Kino, c'était comme un grand frère. Pour moi, il m'a beaucoup aidé. Hein.
Comment en êtes-vous venu à proposer en 1979 la création d'un musée C'était la fin de la collection. Vous pensiez qu'il était temps de la...
Ah non, pas en 79, c'était pas la fin, c'était le début. Mais de toute façon, il fallait bien que je me prépare à donner cette collection. Qu'est-ce que j'en aurais fait ? Moi, je ne savais pas. Déjà, pendant longtemps, c'était logé dans notre grenier, toutes les œuvres. Et puis après, c'est un ami chirurgien dentiste qui a mis dans son grenier aussi. Ça commençait à être dangereux parce qu'on en avait pour une fortune. Là. Et après seulement, on les a mis à la mairie. D'abord à la mairie de Malo, puis après à la mairie de Dunkerque. Mais non, dès qu'on est parti comme ça, on est pris dans un engrenage et on ne peut plus reculer. Et puis en fait, c'est un petit peu, on est un peu grisé là-dedans. Hein. On est content d'amasser et d'avoir des trésors comme ça.
Alors, une dernière question, mais qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque, je dirais, la passation s'est faite avec la ville, tout ce que vous aviez acquis passé dans ce projet d'un musée vous n'étiez plus en situation de chercher d'autres œuvres d'art ou vous avez aussi, continué
il faut continuer, on n'arrête jamais quand on fait une collection,
oui, pour finir,
il manque toujours quelque chose oui. Oui. Non mais j'étais rassuré quand le maire a dit bon d'accord on va construire un musée et quand je l'ai vu sortir de terre surtout c'est la récompense en fait.
Eh bien, de nous faire part d'un de vos souvenirs. Vous avez rencontré des artistes qui me semblent être des personnages hauts en couleur, avec des caractères extrêmement prononcés. C'était des figures. Et je pense que vous avez dû garder des souvenirs très marquants de ces rencontres avec ces artistes du groupe Cobra.
Avant, je voudrais quand même revenir un petit peu sur... La qualité de notre collection. Aude a confirmé qu'on avait sûrement la plus belle collection en France des années 50-70. Mais maintenant, jamais personne ne pourra nous rattraper parce que toutes les œuvres que nous avons là sont hors de prix. Plus personne ne peut se les payer. Par exemple, Shoot et Shoon. J'ai acheté des Shoot et Shoon 10 000 francs. Ils valent tous 1 million francs pièce. J'ai acheté, on parlait tout à l'heure, du Andy Warhol. J'ai payé 120 000 francs. Il vaut 57 millions de francs maintenant. Et tous les autres, pareil. La nana de Niki Tsinfa vaut maintenant 1 million de francs. J'ai payé 10 000 francs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si on additionne tout ça, personne ne peut se payer. Et les moutons. Les moutons, j'ai payé 120 000 francs pour 9 moutons.
Vous parlez des moutons, c'est-à-dire les œuvres de liquide.
Non, non, les moutons de la laine. Oui. Les 9 moutons, j'avais payé 100 000 francs. Ils valent 174 000 euros pièce maintenant. Alors donc, plus personne ne peut se constituer une collection avec des œuvres des années 50-70, surtout les œuvres majeures. C'est pareil pour Hartung, c'est pareil pour Manessier, César, Armand, tous ces gens-là.
Elle est d'autant plus difficile à constituer que peut-être aussi les œuvres, non seulement augmentées de prix, mais elles ne sont plus en circulation. Il y a
et puis les plus belles sont parties parce que voilà. Moi j'ai pu les choisir dans les ateliers. Et maintenant, bon, il faut racheter des œuvres à des collectionneurs, mais ça coûte relativement cher.
Qui ne sont pas obligatoirement mises en vente, qui ne sont pas en circulation.
Non.